Bonjour Fabrice, aujourd'hui en effet 1945-1958, quand le Parti communiste était le premier parti de France.
Le peuple de France proclame hautement sa confiance dans l'Union soviétique. Vive le drapeau victorieux de Marx, Engels, Lénine et Staline. Vive le communisme.
D'histoire. La surprise provoquée le 21 avril 2002 par le score du Front National a fait passer au second plan un autre résultat, celui de Robert Hue, qui avec 3,5% des voix n'arrivait qu'au 11e rang des candidats à l'élection présidentielle. Jamais dans son histoire, le Parti communiste n'avait obtenu aussi peu de suffrages. On était loin de l'époque où, il y a 60 ans, auréolé du prestige que lui avait donné son action dans la résistance et fier des liens qui l'unissaient à l'Union soviétique, le Parti communiste était le premier parti de France et accueillait en 1945 à la Fête de l'Humanité son 1000e adhérent.
Chers camarades, j'ai la joie immense et la grande fierté de remettre aux camarades Prouvot, un mineur de Bruay-en-Artois, la carte du 1000e adhérent du Parti communiste français. Fidèle, irréductiblement, au principe du socialisme scientifique, du socialisme de Marx, Engels, Lénine et Staline.
Yves Santamaria, bonjour.
Bonjour.
C'était Maurice Thorez, le chef du Parti communiste en 1945 à la Fête de l'Humanité, au début d'une époque pendant laquelle le Parti communiste a été le premier parti de France. Vous le rappelez dans un livre publié chez Armand Collin et intitulé « Le parti de l'ennemi », ennemi avec un point d'interrogation. De qui s'agissait-il ? C'était, je suppose, de l'URSS.
Eh bien, le Parti communiste français a été perçu comme tel par une grande partie de la classe politique française de la 4e République. De Gaulle, au premier chef, qui en son temps en faisait le fourrier, l'avant-poste, la 5e colonne des chars russes, qui étaient, disait-il, à deux étapes du Tour de France, mais également des gens comme Guy Mollet, qui le classait non pas à gauche, mais à l'Est. Et il est vrai que le PCF semblait alimenter ses soupçons lorsqu'il expliquait qu'à l'instar du peuple polonais, bulgare et autres pays récemment introduits dans l'Union européenne, eh bien le prolétariat français, Maurice Thorez en tête, accueillerait à bras ouverts les chars rouges.
Alors ça, on le disait à partir de 47, parce qu'avant, c'était pas le parti de l'ennemi. D'abord, l'URSS était toujours considéré comme un allié à partir de la victoire sur le nazisme dans laquelle elle a joué un grand rôle, et le Parti communiste, c'était aussi le parti de la résistance, le parti, disait-il, même si le chiffre était un peu gonflé, des 75 000 fusillés, donc c'était pas le parti de l'ennemi, c'était au contraire un grand parti, le premier de France dès les premières élections, et un parti de gouvernement. De Gaulle, que vous citiez, Yves Santamaria, vous le rappelez, avait pris des communistes dans son gouvernement dès le gouvernement provisoire, dès 1944.
Oui, je crois que De Gaulle représentait un point de vue qui était très largement partagé. La France a besoin de tous ses enfants, à l'exception d'une poignée de collabos et de traîtres, pour reconstruire un pays ravagé par la guerre. Donc, toutes les bonnes volontés étaient requises, et Maurice Thorez a relayé ce désir en demandant aux ouvriers français de se retrousser les manches.
Oui, ça c'était l'époque de la reconstruction, et alors c'est un parti, par exemple, qui est même suffisamment fidèle au gouvernement, une fois De Gaulle parti, pour voter, ce qui peut évidemment surprendre, pour voter les crédits militaires au tout début de la guerre d'Indochine. Il était membre du gouvernement Ramadi à l'époque.
Oui, et ceci peut paraître d'autant plus étonnant que le dirigeant des nationalistes vietnamiens, en tout cas au nord, était un vieux communitarien, un vieux bolchevique, un stalinien endurci, Ho Chi Minh.
Donc c'est un parti discipliné dans le gouvernement dirigé par le socialiste Ramadier qui le quitte en 1947, chassé par Ramadier justement, parce que c'était le début de la guerre froide, que les communistes étaient hostiles, désapprouvaient l'alignement qui s'est fait progressivement derrière les États-Unis, et un alignement qui se traduira bientôt par l'entrée de la France dans l'OTAN et l'aide apportée par le plan Marshall aux pays de l'Europe qui l'acceptaient.
Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet, c'est maintenant une réalité. À Washington, le président Truman a signé la loi votée par le Congrès et qui assure aux nations participantes d'Europe quelques 6 milliards de dollars, soit 1800 milliards de francs. Grâce à cette aide, dont l'idée fut lancée voici 10 mois, l'Europe compte se redresser définitivement.
Les Ricains en Amérique et la France en République. Les Ricains en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non, messieurs les Yankees. Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier. Eisenhower et ses banquiers veulent la guerre au monde entier. Plan Marshall et pacte atlantique, la guerre au peuple soviétique. Nous ne marcherons pas. Nous ne serons pas vos soldats. Les Ricains en Amérique et la France en République. Les Ricains en Amérique et la France en République. Coca-Cola et whisky, non.
Alors c'était une chanson du Parti communiste au début de la guerre froide, quand le parti de Maurice Thorez refusait le plan Marshall, le pacte atlantique et tout ce qui venait d'Amérique, même le Coca-Cola. En fait, c'est la guerre froide qui a provoqué la rupture, le passage du Parti communiste, du statut de parti de gouvernement, à un parti d'opposition isolé.
Oui, c'est la guerre froide. En tout cas, c'est ce que nous pouvons bien comprendre aujourd'hui, chose que n'avait pas forcément comprise le contemporain. Les contemporains, communistes en tête, ce à quoi ils sont sensibles, c'est que ce n'est pas encore la prospérité en France et que la classe ouvrière française qui s'est retroussée les manches aimerait bien recueillir d'ores et déjà les bénéfices de son travail. Et le Parti communiste français va d'abord faire une cure d'opposition parce qu'il y a une poussée ouvrière, une poussée revendicative sur le plan des salaires. Et c'est par la suite qu'il va réaliser qu'il est parti du gouvernement et que ça risque de durer longtemps.
Mais surtout, il se trouve devant un choix, c'est celui que pose l'Union soviétique, le grand frère soviétique, comme on disait à l'époque. En 1947 est aussi la création du Comintern, qui succède au Comintern, qui avait été dissous en 1943. Et le monde, selon les soviétiques, selon Jdanov notamment, est divisé en deux. D'un côté, les méchants impérialistes dirigés par les Américains, de l'autre, les bons soviétiques. Et là, le PC est devant un choix, et il va choisir, bien sûr, l'URSS, si tant est qu'il n'ait jamais renoncé à la suivre.
Voilà, c'est vraiment l'hiver 47-48, avec d'une part la création du Cominform, et puis aussi le coup de Prague, début 1948, qui fait que désormais les clans sont nettement établis, et dans ce camp, le PCF a choisi celui de Moscou, sans état d'âme, car comme l'a rappelé Maurice Thorez à Staline, il est certes de nationalité française, mais il se sent l'âme d'un citoyen soviétique.
Et il le fait en passant dans l'opposition, et dans une opposition très violente, puisque dès 1947, le PC participe, pousse même à des grèves très violentes. Écoutez le ministre socialiste des PTT, Eugène Thomas, en 1947.
Postier, dans la nuit du 29 au 30 novembre, une bonne centaine d'individus pénètrent dans le central téléphonique de la rue Marcadet. La police alertée envoie des renforts. Après bagarre, 103 arrestations. Des postiers, penserez-vous? Non, 11 postiers seulement. 92 individus étrangers à notre corporation, tous membres des cellules communistes du quartier.
Climat de trouble, c'est l'atmosphère de cette semaine. Dans les mines du Nord, où l'effervescence continue, les compagnies de sécurité ont dû intervenir pour libérer les puits des piquets laissés par les grévistes pour empêcher tout travail. Mais en d'autres endroits, l'épreuve a pris un caractère nettement dramatique. Car en dehors de l'opposition ouverte, le sabotage, sous toutes ses formes, a pris sa place dans l'agitation. Près d'Arras, L'express postal Paris-Tourcoing a déraillé par suite de l'action de criminels anonymes qui avaient déboulonné les rails sur 25 mètres. 24 morts, une quarantaine de blessés. Tel est le bilan de cet attentat abominable que toutes les consciences françaises se doivent de flétrir.
C'était les grèves de 1947, les plus violentes peut-être qu'ait connues la France de toute l'histoire syndicale. Yves Santamaria, pourquoi cette attitude du PC qui, après avoir été un parti très discipliné dans les gouvernements, un parti de gouvernement, non seulement passe dans l'opposition, mais même dans une opposition extrêmement violente?
Oui, ce qui est curieux, c'est que ça a été vraiment perçu comme le PC déclenche l'insurrection. Alors qu'au même moment, sur le terrain, le PC laisse la bride à notamment d'anciens commandos résistants qui ont gardé les armes, les explosifs, et qui aimeraient bien les utiliser, ce qui se fait en de rares occasions, en fait, ce qui s'est fait. Mais en même temps...
Le déraillement, je crois, de ce
voilà,
train,
c'est ouais, le déraillement, effectivement, sont des gens que connaît très bien Auguste Lecoeur, et c'est une initiative locale, hein, c'est pas le Kremlin. Parce qu'au Kremlin, précisément, on s'inquiète, car la ligne de Staline, à ce moment-là, l'hiver 47-48, c'est d'essayer de faire un front commun avec la bourgeoisie française contre l'impérialisme américain. On a des émissaires du PC qui négocient avec le CNPF. Or, comment négocier avec le CNPF alors que la base du PC se rue à l'assaut des exploiteurs?
On a dit, Yves Santamaria, que le PC, ça c'était le gouvernement, un gouvernement socialiste, hein, je le rappelle, il y avait aussi Jules Moc, etc., qui envoie les CRS contre les grévistes, que il était question non seulement de grève insurrectionnelle, mais de tentative de prise du pouvoir par les communistes. Est-ce que c'était le cas?
Aujourd'hui, nous pouvons conclure, non, il n'y a pas eu de tentative de prise de pouvoir. Il y a eu, à un moment donné, le feu vert donné à toute une rancœur ouvrière. Il y a eu également la volonté de montrer que même en dehors du gouvernement, on pouvait peser sur la vie politique. Il y a eu une volonté de montrer aux Américains que la France n'était pas une terre sûre pour eux. Mais il n'y a pas eu de volonté de prise de pouvoir. Le PCF a un sens très aigu des rapports de force, et en particulier à cette époque.
Et puis cette fois-ci, il peut manifester son hostilité à la guerre d'Indochine, ce qu'il ne pouvait pas faire dans le cadre du gouvernement. Alors là, ça a été le premier grand combat politique aussi du Parti communiste à partir de 1947-48 contre ce qu'il appelait la sale guerre.
Voilà, c'est-à-dire que le PC a une logique. Il est fondamentalement dans une guerre anticolonialiste. Alors que dès 1947, et certainement même avant, la guerre d'Indochine, c'est aussi une guerre froide. C'est à la fois les puissances coloniales contre les peuples colonisés, mais c'est aussi les communistes contre les autres, car la faille passe aussi au sein des Vietnamiens. Donc le PC met en avant l'idée qu'il se bat contre une guerre injuste, contre une sale guerre, contre une guerre colonial. Voilà, c'est pour ça qu'il va être un petit peu en porte-à-faux au moment de Dien Bien Phu, où il se réjouit d'un côté, mais en même temps, comme il est patriotique, il ne veut pas apparaître comme l'ennemi, il verse une larme sur le sort de ces malheureux soldats français envoyés à la mort.
Il va quand même essayer d'empêcher les envois d'armes en Indochine, manifester aussi, parce qu'elle est très liée à la guerre d'Indochine, bien sûr, contre la guerre de Corée.
Oui. Alors, pour la guerre de Corée, il a beaucoup moins de marge. Il a encore moins de marge de manœuvre. Parce que, déjà, la guerre d'Indochine, c'est une guerre où on n'envoie pas le contingent. Donc, finalement, c'est une guerre qui soulève peu de passions. Et en Corée, alors là, la participation française a été complètement réduite. D'où la nécessité de se tourner vers une cible qui n'est non plus Paris, mais Washington. Puisque c'est Washington qui mène le bal ouvertement.
Et en tout cas, victime, le PC, d'une répression très dure à ce moment-là. Hein, à cause, notamment, de son action contre la guerre d'Indochine.
Oui, il y a de nombreux débats dans le personnel politique de la 4ème République autour de la question de faut-il interdire le parti de l'ennemi précisément. Et la décision qui est prise en permanence, c'est surtout pas, il représente entre 20 et 30% de l'électorat.
Alors, c'est le parti de l'ennemi, mais aussi, c'est ce dont il se réclame, le parti de la paix. C'est le thème d'une grande campagne pour la paix, hein, symbolisé par la colombe de Picasso, par l'appel de Stockholm contre l'arme nucléaire, et aussi par le congrès de la paix ouvert à Varsovie par le savant français proche du parti communiste, Frédéric Joliot-Curie, en novembre 1950.
Je déclare ouvert le congrès mondial des partisans de la paix.
Colombe vole, 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 oiseau tant espéré. Colombe vole, 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 vive la paix, la liberté.
on ne pourra mettre à genoux, on ne pourra mettre à genoux. Garçons et filles de chez nous, garçons et filles de chez nous. Il faudrait des prisons dans toutes les maisons. Colombe vole, 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 vole oiseau tant espéré. Colombe vole, 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 vive la paix, la liberté.
Encore une chanson communiste des années 50, hein, le parti de la paix, avec cette fameuse colombe qui était celle de Picasso et Santa Maria.
Oui, ceci apparaît désormais comme un paysage familier, hein, de l'univers mental européen, communisme, paix, colombe, alors que pour les contemporains, il y avait quand même, notamment chez beaucoup de chansonniers, une dimension dérisoire à voir le parti qui brandissait les armes lorsqu'il s'agissait des guerres justes, le parti qui avait dénoncé le pacifisme munichois, se vouait désormais en apôtre de la paix, pas de la non-violence.
Ça, c'était à la demande quand même de l'URSS. Il faut rappeler que c'est l'époque où il y a une très grande compétition entre l'URSS et les États-Unis, qui ont beaucoup d'avance, les États-Unis, dans le domaine de l'arme nucléaire, d'où aussi cet appel de Stockholm contre les armes nucléaires.
Oui, l'Union soviétique, on le voit bien maintenant, est à l'origine de la campagne, dans la mesure où Staline avait décidé de donner le feu vert aux Nord-Coréens pour intervenir au Sud. Et comme contre-feu, Staline avait en personne décidé le lancement d'une campagne visant à proscrire ou à dénoncer l'utilisation de l'arme nucléaire. Là, on est dans une logique décidément de mobilisation, comme disait François Mitterrand, des pacifistes qui sont à l'Ouest.
Et une mobilisation, c'était d'ailleurs son objectif, qui va très au-delà de l'électorat communiste. Beaucoup de gens, forcément, quand on se proclame parti de la paix, beaucoup de gens sont tentés d'y adhérer. Je crois même que Jacques Chirac a signé, ou en tout cas présenté, cet appel de Stockholm au début des années 50. Il y avait beaucoup d'intellectuels non communistes. Je pense à Maurice Druon qui signait des pétitions contre la répression. Maurice Druon, qui n'est pas communiste, on s'en doute, contre la répression dont les communistes étaient victimes.
Oui, il s'agit d'une des rares pétitions qui ait vraiment connu un caractère de masse, surtout pour la France. Je ne parle pas des pays de l'Est où 90% de la population signait. En France, plusieurs millions de Français ont signé un texte qui était quand même relativement vague, mais qui apparaissait comme d'autant plus équitable que désormais l'Union soviétique était elle-même dotée de l'arme nucléaire, donc on pouvait se parer des couleurs de l'impartialité, non à toutes les bombes.
Alors la répression va quand même continuer contre le parti communiste, elle a rarement été aussi dure, d'ailleurs la répression du pouvoir de la 4e République, et elle va même atteindre son apogée, ou en tout cas va devenir de plus en plus importante, lorsque le général Ridgway, ancien commandant en chef américain en Corée, arrivait à Paris pour y prendre le commandement de l'OTAN en 1952.
Et voici, il est 12h12, précédé d'une escorte de 30 bimoteurs, le quadrimoteur géant de l'armée américaine US Air Force 8608 à 4 étoiles d'or. Le général et madame, suivis d'une ordonnance portant le jeune Ridgway, descendent les marches. Salutations, et le général, M. Pleven à ses côtés, se dirige vers nos micros.
I am deeply appreciative of the reception here this morning by so many notable.
Le général, d'une voix claire et nette, dit qu'il s'appliquera à la grande tâche qui l'attend, qu'il s'y appliquera de toute son énergie. L'organisation Nord-Atlantique, dont il vient de prendre le commandement des troupes en Europe, n'a qu'un seul but, veiller à ce que la paix soit stable, honorable, et qu'elle ne prenne jamais fin.
Les manifestants se heurtent violemment en plusieurs points de Paris aux forces de police qui les dispersent. Résultat, un mort et des blessés parmi les manifestants, 200 blessés parmi la police. Enfoncez-vous bien ceci dans la tête, semblaient dire les pancartes découpées dans des plaques de tôle et les barres métalliques abandonnées dans les bagarres.
Mais le peuple a dit non, il n'y a rien à faire. À l'Union soviétique, on ne fera pas la guerre. Nous ne serons pas les vilains des gros milliardaires. Finalement, ces requins mordront la poussière. Par l'union et l'action, tous ensemble agissons. Nous ferons reculer ceux qui veulent nous faire tuer. Et le pacte atlantique retombera sur le nez des banquiers d'Amérique qui l'ont inventé.
Alors ces manifestations de 1952 contre le patron du pacte atlantique en Europe, le général Ridgway, alors là c'était connu, on l'appelait Ridgway la peste.
Oui, le Ridgway la peste, ça vient probablement du nom d'un personnage de comics américain, ce qui montre déjà l'intrusion de l'impérialisme yankee dans la vie culturelle française. C'était Denis la peste, c'était un petit gamin facétieux. Donc il y avait un petit clin d'œil de Titi parisien contre Ridgway. Voilà, alors la peste, ça faisait allusion aux armes bactériologiques que les Américains étaient censés employer en Corée.
Alors il y a eu des choses pittoresques, l'arrestation par exemple du numéro 2 du Parti communiste qui était Jacques Duclos, parce qu'on avait trouvé des pigeons dans sa voiture et on disait c'est des pigeons voyageurs pour qu'ils transmettent des messages à Moscou.
Voilà, alors que bon, le Parti communiste français avait d'autres canaux de liaison. Je rappelle que la France reconnaissait l'Union soviétique, donc les services de l'ambassade soviétique avaient une liberté de contact à peu près totale avec les militants communistes. Donc l'usage de pigeons a été vite retourné en commentaire gastronomique du Duclos, Fingal, amateur de pigeons aux petits pois. Voilà.
Alors cela dit, le PC reste toujours fidèle à l'URSS et à son chef Staline, mais alors très silencieux sur les procès qui se passent au même moment. Les communistes accusent même leurs adversaires de mentir quand on dit que c'était l'époque, par exemple, où en Tchécoslovaquie, eh bien, il y a eu ce fameux procès Slansky, des dirigeants communistes qui sont condamnés à mort ou qui échapperont de justesse comme Arthur London parce qu'ils n'étaient pas fidèles à la ligne du parti. Le parti français, lui, reste fidèle à Staline.
Oui, le Parti communiste reste fidèle à Staline, mais commence déjà, alors c'est plus facile à l'historien de le percevoir aujourd'hui avec le recul, commence déjà à voir quelques fêlures dans les rangs de ceux qui se réclament de la résistance. Qu'en particulier, à l'Est, on trouve que le pourcentage de juifs pendus est anormalement élevé. Et donc, dans les rangs de la communauté juive en métropole, hein, donc les Ashkénazes, un certain nombre de gens se posent des questions quant à l'existence éventuelle d'un antisémitisme chez Staline.
Donc, parce qu'il y avait le procès des blouses blanches juste avant sa mort, qui accusait un certain nombre
de
médecins juifs.
Mais déjà, on le voit très bien, même dans le monde, hein, on commence à y avoir des soupçons. Est-ce que les juifs ne sont pas l'une des cibles de Staline?
Il y a une chose qui est surprenante aussi. On est à l'époque où commence la guerre d'Algérie. Et là, le Parti communiste, il est plutôt ambigu. Il s'est battu énergiquement contre les guerres d'Indochine. Quand la guerre d'Algérie commence, non seulement il est hésitant, il prône pas à l'indépendance de l'Algérie, mais il va même voter les pouvoirs spéciaux demandés par Guy Mollet pour se battre en Algérie, en 56.
Oui, je crois qu'ici, il faut bien comprendre que les communistes, les dirigeants communistes, à la différence du militant de base, eux ont une vision planétaire. Or, dans l'affrontement historique entre capitalisme et communisme, ce n'est pas l'Afrique qui a joué le rôle majeur. La décision, elle a été faite en Europe et en Allemagne. Et finalement, de ce point de vue-là, ils ont raison sur le long terme. Sauf que de 54 à 58, pour la France, ce n'est pas la question allemande qui domine, c'est la question algérienne. Donc pour eux, le but, c'est d'éviter éventuellement que les États-Unis ou l'Allemagne prennent le relais de la France en Algérie.
Alors la guerre d'Algérie, c'est 1954. Deux ans plus tard, voilà que l'on commence à déstaliniser en URSS même, où l'on condamne les crimes de Staline, ce que le PC va avoir du mal à admettre.
Le transfert du corps de Staline hors du mausolée s'accompagne depuis quelques jours d'une série de mesures destinées à réduire encore davantage l'auréole de celui qui, pendant des années, avait acquis en URSS une situation comparable à la déification pure et simple.
La plus grande faute, la faute majeure, je pourrais dire, des communistes de notre génération, ça a été cette foi inconditionnelle. Nous avions vraiment perdu la possibilité de penser avec notre propre esprit. Nous nous en remettions vraiment entre les mains du parti et en allant plus loin, entre les mains de Staline, qui était notre César, notre tribun, notre dieu, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la faute majeure. Nous avions perdu vraiment la capacité de pouvoir penser par nous-mêmes. Ça, c'est très grave. Et ça, c'est la grande leçon. Et c'est ce qu'on peut dire aux jeunes, continuez toujours de penser par vous-même et de juger par vous-même.
C'est un témoignage très émouvant que j'avais recueilli en 1993, puisque la femme que l'on vient d'entendre, c'était Lise London, c'était la femme d'Arthur London, qui elle-même avait accablé son mari à l'époque où on le soupçonnait de vouloir trahir l'URSS et le communisme, et qui expliquait cette espèce de fascination qui a quand même conduit le Parti communiste à son apogée en termes d'électorat, et à quand même à suivre et à soutenir ce qui était insoutenable.
Oui, je crois que là, les jeunes générations ont du mal à comprendre à la fois la profondeur de ces engagements et leurs implications. La profondeur, parce que aujourd'hui, à tort ou à raison, on peut voir dans l'attitude des gens des calculs, du cynisme ou des décisions prises en toute connaissance de cause. À l'époque, on s'engage dans un parti pour des raisons qui peuvent être amoureuses, idéologiques, familiales, stratégiques, etc.
Oui, et on ne s'y engageait pas parce qu'on approuvait les crimes de Staline.
Voilà,
on faisait semblant de ne pas les voir, on ne les voyait
on
pas.
On ne va pas là pour faire carrière, pour faire carrière ou pour applaudir au travail des bourreaux. On y va parce qu'il y a des lendemains qui chantent au bout de course. Voilà.
Est-ce que c'est ça qui explique le maintien du Parti communiste à un aussi haut niveau? Car jusqu'en 58, il est resté le premier ou un des deux premiers partis de France, très loin devant les socialistes. Et même après 58, quand il va être dépassé par les gaullistes, le PC va rester fort jusqu'à environ 20% des suffrages jusqu'à la fin des années 70, Yves Santamaria.
Oui, il aura même une embellie paradoxale après mai 68, où un certain nombre d'étudiants, même gauchistes, vont rejoindre les rangs du PC, parce que le PC, c'est du sérieux, qu'il est candidat au pouvoir.
Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont quitté aussi en 68.
On est d'accord, mais il y a également un renouvellement des effectifs. C'est plus tard, c'est à partir des années 80, de la montée en puissance du PS de François Mitterrand et du déclin de l'image des pays communistes et de la disparition de la classe ouvrière, en fait, toute une série de phénomènes sur lesquels on n'a pas le temps de s'appesantir, que véritablement la déprise va s'effectuer. Mais jusque-là, jusqu'aux années 70, le PC reste encore un élément essentiel de la vie politique française.
Quelles leçons peut-on tirer de tout ça, de l'importance de ce parti, malgré ses prises de position dans les années 50, ils sont amérés en quelques mots,
en deux mots. Je déteste ce mot leçon, mais en tout cas, l'étude de cette question m'a appris paradoxalement la puissance du sentiment national. Je crois que si le PC a réussi à monter en puissance, c'est que pour certains Français, il s'est identifié à la France.
Avec les gaullistes, c'est pour ça qu'on les a retrouvés souvent côte à côte, hein, dans les années 50, dans les mêmes combats pour l'indépendance. Merci Yves Santamaria. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Le parti de l'ennemi, point d'interrogation, le parti communiste français dans la lutte pour la paix 1947-1958 » publié chez Armand Collin. Vous êtes également l'auteur d'un livre sur le pacifisme, Pacifisme, une passion française, également publié chez Armand Collin en 2005. À lire également sur le sujet l'histoire d'un journal communiste breton sous la 4e République, Ouest Matin, un quotidien breton dans la guerre froide, de Jacques Touroud, publié aux éditions Apogée. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1948, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, dans les collections Le Journal de votre année, ainsi qu'une archive extraite du documentaire Il était une fois les communistes français, d'Yves Jeu L'an, disponible en DVD aux éditions La Compagnie des Phares et Balises. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Documentation et archives sonores, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis. Une réalisation de Anne Comilac.